Bonsoir. Le gouvernement Judith Suminwa vient de totaliser 100 jours ce jeudi 19 septembre depuis son investiture en juin dernier par l'Assemblée nationale. Des retours des vacances parlementaires, certains députés estiment que l'action du gouvernement n'est pas encore palpable dans leur circonscription au regard de la situation misérable dans laquelle vivent les Congolais dans presque tous les secteurs de la vie nationale. Crispin Bindoulé et Gary Sakata, deux députés nationaux ont adressé deux questions, l'une orale et l'autre écrite à la première ministre Judith Suminwa sur notamment la mise en œuvre du programme du gouvernement ainsi que la politique générale de l'institution qu'elle dirige. Quel bilan dressez-vous de son premier jour du gouvernement Suminwa? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 19 septembre 2024. Participe au débat de ce soir Eliezer Tambwe, député national élu dès la circonscription électorale de la Lukunga dans la ville de Kinshasa. Il est président du parti politique Action Commune pour la République, ACR en sigle, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. On me signale qu'il n'est pas encore en ligne. La réalisation est en train de l'appeler. Avec moi dans ce studio, Prince Epengue, président du parti politique Action pour la démocratie et le développement du Congo, ADD en sigle, parti politique, membre de la plateforme Lamoukia. Il est parmi les porte-parole de cette plateforme. Prince Epengue, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à ceux qui nous suivent.
Michel Bissa, professeur à l'Université de Kinshasa et secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance et laboratoire de recherche en sciences sociales. Professeur Michel Bissa, bonsoir.
Bonsoir madame journaliste et bonsoir aux co-débatteurs.
À Kananga, au Kasaï Central, vous nous suivez sur la 93.0. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit, le gouvernement Judith Suminwa vient de totaliser exactement 100 jours ce jeudi depuis son investiture dans la nuit du 11 au 12 juin dernier par l'Assemblée nationale. Des retours de vacances parlementaires, certains députés estiment que l'action du gouvernement n'est pas encore palpable dans leur circonscription. C'est pourquoi deux députés, Christian Bindoulé et Gary Sakata, s'adressent ou adressent deux questions, l'une orale et l'autre écrite à la première ministre Judith Suminwa. Elle porte notamment sur l'effectivité du commencement de la mise en œuvre du programme de son gouvernement ainsi que sur la politique générale de son gouvernement. Les décès avec Michel Kifinda.
Après 100 jours d'investiture du gouvernement souminois, les Congolais se demandent à travers leurs élus les réalisations gouvernementales, notamment en ce qui concerne la création des emplois et la protection du pouvoir d'achat, la défense et sécurité, ainsi que la reconstruction des infrastructures. Au regard des multiples doléances enregistrées pendant les vacances parlementaires, le député Gary Sakata adresse une question écrite à la première ministre, à savoir: quelle évaluation fait-elle de l'exécution des 6 piliers du programme gouvernemental pendant les 100 premiers jours? L'élu de Bagata veut savoir les réalisations concrètes du gouvernement souminois, tout particulièrement dans les secteurs sécuritaires et de gouvernance électorale. Pour sa part, dans sa question orale avec débat, le député Crispin Bindoulé interroge la chef du gouvernement autour du niveau d'exécution du programme 2024-2028. L'élu de Butembo dans le Nord Kivu veut savoir notamment combien d'emplois ont déjà été créés sur les 1 500 000 promis, mais aussi quelles actions phares déjà entreprises pour assurer l'accès à l'eau, à l'électricité, aux soins de santé et à l'éducation.
Merci Michel Kifinda pour ce reportage. Les avis des Congolais sont partagés sur le bilan des 100 jours du gouvernement souminois. Radio Capi a promené ce jeudi son micro à travers la République. Les uns estiment qu'il est trop tôt de juger la première ministre, il faut lui donner encore du temps. D'autres cependant disent que la chef du gouvernement n'a rien fait 100 jours après et estime qu'elle ne saura pas relever le défi. Je vous propose de suivre quelques Congolais rencontrés au micro de Blaise Shindani et Believe Fataki.
Avec ses ambitions qu'elle nous a émises, hein, moi j'ai dit qu'il faut lui donner du temps. Le 100 jours c'est comme mon doigt, il faut lui donner du temps. C'est-à-dire, il y a des paramètres qu'elle doit changer et que nous, nous devons nous adapter. Mais pour le moment, c'est très tôt de juger la maman. Ne cherchons pas de miracle. Les hypothèses de 100 jours, ça vient de Blanc. Il nous inculque certains cycles de temps pour dire que dans tant de jours, on aura des miracles. Non, on ne vit pas en Europe, on vit en Afrique. L'Afrique a ses propres réalités. Allons tout doucement.
Le bilan de Mme Souminoua, donc nous pouvons dire seulement qu'il y a des signes positifs qui donnent vraiment de l'espoir. Dès l'entrée en fonction, nous l'avons vu à l'œuvre jusqu'à l'Est, là où il y a la guerre, pour assister les blessés de guerre et autres. C'est déjà des signes de vraiment d'espoir. Nous avons vu aussi à la rentrée parlementaire, dès la rentrée, la dame est partie déposer le projet de budget, un projet qui suscite encore beaucoup d'espoir.
Bon, ce qui est sûr, il m'est difficile de parler du bilan de la première ministre ce jour, puisque son plan n'a pas été divulgué quant aux 100 jours. Mais cependant, si je dois me fier au cours d'échange du dollar, je me dirais qu'il y a une certaine stabilité qui s'est présentée. Et par rapport à cela, j'ai dit coup de chapeau précisément à son ministre d'économie, le professeur Mukoko Samba. Par contre, pour ce qui est du reste du gouvernement, c'est du surplace. C'est du surplace.
Bon, pour moi, je vis aucune chose, hein, rien du tout. Il n'y a rien du tout. Aucune chose se réalise. Il n'y a rien du tout.
En tout cas, pour moi, il n'y a rien. Le bilan est largement négatif. Donc, elle n'a rien fait. Elle n'a qu'à démissionner. Parce qu'on ne voit rien. On ne voit rien. On espérait quelque chose avec une dame de fer, mais on ne voit rien. Peut-être elle est bloquée par-ci, par-là.
Bilan 100 jours, gouvernement Judith Souminoua, les avis sont partagés. Vous avez suivi ces Congolais qui ont réagi à travers la République hein, via le micro de Radio Okapi. Pour certains, le bilan est positif. Pour d'autres, le bilan est largement négatif. D'autres encore estiment que le bilan de Judith Souminoua est mitigé. La réalisation me signale que Eliezer Tambwe est en ligne. Eliezer Tambwe, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Je rappelle que vous êtes député. Ah, merci. Je rappelle que vous êtes député national, élu de la circonscription électorale de Kinshasa, de la Lukunga plutôt, de la ville de Kinshasa. Vous êtes président du parti politique Action commune pour la République. C'est un parti membre de l'Union sacrée de la nation. 100 jours après l'investiture du gouvernement Judith Souminoua, quel bilan dressé?
Merci beaucoup, madame Kelly. Je vous remercie également pour l'invitation. Je pense, à mon humble avis, que les 100 jours, oui, nous pouvons l'évaluer, mais il faut également savoir que les 100 jours ne suffisent pas pour évaluer un gouvernement. Souvent, nous copions ce qui se passe sous d'autres cieux pour les plaqué chez nous sans tenir compte de certaines réalités. Dans 100 jours, le membre du gouvernement prend le temps d'abord de prendre en possession leur ministère avant d'agir généralement. Mais quel que soit ça, il y a eu quand même quelques ministères ou quelques membres du gouvernement qui fait quelque chose pour donner.
On ne vous suit pas très bien. Le réseau n'est pas bon. La qualité de la ligne est mauvaise. Et les airs tambours, est-ce que vous pouvez bouger pour l'améliorer?
Oui, mais moi, je vous capte.
Maintenant, ça va. Ça va mieux maintenant.
Ça va.
Oui.
Je disais tantôt, madame, que oui, les 100 jours, c'est en même temps beaucoup, en même temps peu, dans la mesure où nous copions les bilans de 100 jours, généralement, c'est dans des pays où il y a au moins une stabilité gouvernementale. Chez nous, nous sommes une démocratie qui se recherche encore. Voilà pourquoi, en voulant évaluer le gouvernement en 100 jours, souvent nous faisons une analyse biaisée parce qu'on ne tient pas compte des d'autres facteurs ou d'autres réalités du pays. Voilà, moi j'estime à mon avis qu'il y a d'un côté le temps que le membre du gouvernement devrait prendre en réalité leurs fonctions pour connaître les tenants et les aboutissants de leur ministère, maîtriser les contours avant de se lancer. Mais quel que soit ça, nous pouvons aussi considérer que tout le monde n'est pas tout le monde. Il y a quelques ministres qui ont excellé, qui ont fait quelque chose qui démontre qu'il y a la volonté de changer les choses et que si nous leur donnons un peu de temps, ils peuvent mieux faire.
Alors, Elisère Tamboué, vous dites que nous copions ce qui se passe chez les Occidentaux, alors qu'il y a quelques années, vous étiez le premier à dresser les bilans des 100 jours des différents gouvernements qui se sont succédés lors du régime passé.
Bien sûr, je ne vais pas renier mes points de vue, mais si je ne critiquais pas nécessairement les 100 jours, j'ai critiqué en même temps les animateurs qu'on voyait et à la tête de ces institutions-là. Si vous vous rappelez bien, ce sont les mêmes personnes que nous avons vues depuis des décennies qui revenaient, qui n'avaient rien à prendre. Mais dans ces gouvernements de Soumino, en commençant par la première ministre elle-même, elle est nouvelle à ce poste-là. D'ailleurs, elle est la première femme qui a commencé. Et à ce point-là, il y a des nouveaux venus qui sont là, qui cherchent à faire quelque chose. Voilà pourquoi j'ai dit, mais quand j'ai dit de copier, je peux parler, peut-être que je vais revenir avec quelques exemples si vous voulez, de vous démontrer comment les gens agissent dans d'autres pays et comment nous copions de manière aveugle la chose. L'évaluation des 100 jours, oui, on peut critiquer certainement comme on les faisait, mais on les faisait sur base des personnes qui n'étaient pas les personnes nouvelles dans la gestion de la chose publique. Ce sont les personnes qui, depuis des temps, ils ont occupé des fonctions étatiques, ils savent comment ça fonctionne, ils ne devraient pas se comporter comme les novices dans le secteur. Voilà, c'est de ça que je parle, madame.
Alors, Elisa Tamboué, vous êtes députée nationale, il y a certains de vos collègues revenus des vacances parlementaires qui ont adressé une question, deux questions, je vais dire, hein, l'une orale et l'autre écrite à la première ministre Judith Suminwa, notamment sur la mise en œuvre du programme de son gouvernement ainsi que sur la politique générale de l'institution qu'elle dirige. Alors, ils ont profité de ces 100 jours pour adresser ces deux questions orales. Lorsque vous suivez ces députés nationaux, je précise qu'ils sont de la majorité présidentielle, hein, ils dressent un bilan quand même assez négatif, hein, de son premier jour. Il n'y a pas de signaux qui montrent qu'il y a des choses qui évoluent.
D'abord, les initiatives parlementaires de députés nationaux, c'est un pouvoir constitutionnel. Mais moi, je suis en train de préparer quelques initiatives. Nous allons dans d'autres pays, si vous allez en Belgique, par exemple, c'est ça que je dis, que le Premier ministre se présente devant la représentation nationale pour répondre aux questions de la population. Et c'est la même chose que nous faisons, à la différence des gouvernements antérieurs dont vous avez fait allusion. Ce ne sont pas ceux de la majorité qui initiaient. Les initiatives de contrôle parlementaire ne venaient que de l'opposition. Mais ici, il y a au moins une avancée qui permet aux députés de la majorité de connaître l'évolution de la chose. Mais il y a eu un programme qui a été présenté et ses collègues députés qui les soutiennent personnellement ont droit d'inviter les gestionnaires à nous expliquer comment ils vont. Toutes ces questions que vous posez là, ce sont des questions qui seront posées directement aux concernés pour qu'ils nous disent exactement dans les 100 jours qu'est-ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose dont ils ont moins communiqué.
Alors on va y aller aspect par aspect. Elisère Tamboué, on va commencer par l'aspect sécuritaire. Y a-t-il des faits ou de signes qui montrent que le gouvernement est en train de faire des efforts pour, par exemple, stabiliser la partie orientale de la RDC?
Sur le plan sécuritaire, madame, c'est une question très complexe, ce que je peux dire, parce que certainement que c'est une question qui date de très longtemps. Vous vous rappellerez qu'on avait l'ancien président de la République et qui était un général-major. Vous avez entendu comment il pleurnichait autour de la question sécuritaire à l'est du pays. Vous n'allez pas demander à cette dame qui vient de prendre ses fonctions du coup de faire un miracle tout de suite sur l'aspect sécuritaire. Il y a les efforts, certes, parce que j'ai eu à changer. Moi, je n'ai jamais été dans l'armée. Je ne connais pas comment les militaires fonctionnent. Mais j'ai eu à rencontrer quelqu'un qui est dans l'armée qui me dit que c'est la première fois qu'on voit le matériel, les armes, les équipements qu'on achète pour notre armée. C'est déjà une avancée parce que la victoire d'une armée dépend de plusieurs facteurs. Entre autres, l'armement que doit avoir cette armée-là. Sur le plan sécuritaire, moi je pense que madame, émettre un avis directement comme ça, je pense qu'on risque de verser dans les émotions que d'être dans la raison.
Prince Epengue, président du parti politique Action pour la démocratie et le développement du Congo, ADD Congo en sigle, membre de la plateforme Lamouka, vous êtes parmi les porte-parole de cette plateforme. Quel bilan vous vous dressez des 100 jours du gouvernement souminois de façon générale, hein, avant d'aborder l'aspect sécuritaire?
C'est un échec. D'ailleurs, dire que c'est un échec est un euphémisme. Madame Judith n'a tout simplement pas travaillé. Mon frère et ami, honorable député Eliezer, a raison de dire que 100 jours est une pratique qui est un prêt-à-porter amené de l'Occident, évidemment, parce que ça relève, je crois, même de la culture américaine, parce que ça a commencé avec le président Roosevelt, qui, après la grande dépression de 1928, à son arrivée au pouvoir, après avoir été le gouverneur de New York, avait bloqué les congrès américains, les deux chambres, pendant 100 jours, ça veut dire 3 mois, pour voter loi sur loi au fin de relancer l'économie américaine, pour la faire sortir de ce qu'on a qualifié ou de ce que l'on appela la Grande Dépression. Et donc, c'est ce jour-là qui était devenu une référence pour voir si pendant 100 jours, la volonté est là. Ce que Roosevelt avait fait pendant 100 jours, c'est qu'il avait voté beaucoup de lois pour réformer certains bancaires américains, pour réformer l'économie, pour prendre en compte les revendications des travailleurs qui étaient paupérisés pendant la Grande Dépression. Maintenant, ici, à ce qui nous concerne, nous, peut-on évaluer un gouvernement pendant 100 jours? J'ai dit oui. Pourquoi? Eh bien, quand vous amenez un malade à l'hôpital, après 3 mois, même si la maladie restait ou resterait grave, au moins un bon médecin doit réussir à faire baisser la fièvre. Et si vous amenez un malade 3 mois durant l'hôpital, et que les médecins ne réussissent non seulement pas à guérir les malades, mais même la fièvre, ils n'arrivent pas à baisser, et bien c'est que c'est un faux médecin. Sa place n'est pas à l'hôpital. Et c'est exactement le cas de Mme Judith. Mais au demeurant, ou au plus haut niveau, ce n'est pas Judith en réalité qui pose le problème. C'est l'absence de vision de M. Félix Tshilombo dans tous les secteurs. Il n'y a pas de cap. Il n'y a pas de discipline. Et pour ne pas aller loin, soyons pratiques. Vous avez commencé par les secteurs sécuritaires. Et à juste titre, madame, parce que vous êtes congolaise. Enfin, peut-être que je le suppose. Mais vous êtes congolaise, donc je comprends que ce que vit ou ce que vivent les Congolais au nord Kivu, à Ituri, au sud Kivu et au Bandundu, parce qu'on a tendance à l'oublier, chaque jour au Bandundu, les gens continuent à mourir à cause de Mobondu. Mais n'oublions pas ce que nous pensons être l'épiphénomène, mais qui en réalité est un lame de fond qui va nous apporter, nous tous, si on ne fait rien, le phénomène Kuluna.
parlons pas la guerre d'agression. Et j'admire ici le courage de l'honorable Élisée Tamboué, mon frère, que j'ai salué en passant, qui, évitant qu'on lui remontre les bretelles, parce que si vous avez compris de quoi il n'a pas donné une réponse par rapport à est-ce que la situation sécuritaire s'améliore ou se dégrade davantage. Il n'a dit ni oui, ni non. En réalité...
Les questions seront posées aux concernés.
En réalité, il s'est déjà prononcé, qui ne dit mot consent. La situation s'est dégradée davantage. Au nom qui vous, madame Judith...
Une situation qui date de longtemps, selon Élisée Tamboué. Allez-y.
J'ai du mal à prononcer madame Judith Souminoua. Donc, je vais... excusez-moi, Anna. Facilitez-moi l'appellation. Je l'appelle madame JDT. Du 8 août. Le 8 août 2024, il y avait 100 localités entre les mains de Paul Kagame et son M23. Au 16 septembre 2024, nous sommes passés de 100 localités à 115 localités et villages tombés entre les mains de Paul Kagame. Est-ce que la situation s'est détériorée ou elle a positivement progressé ou elle s'est améliorée? De 100 localités le 8 août 2024 à 115 localités le 16 septembre 2024. C'est-à-dire que nous continuons à perdre des terres. Madame n'a pu rien faire. Même au moment où Madame Judith est allée faire sa promenade de santé à Goma en distribuant des biscuits et des bonbons.
Elle n'est pas allée faire sa promenade de santé. Elle est allée travailler, Monsieur Prince.
Même les jours où il était à Goma,
elle est allée assister.
Les rebelles ont continué à attaquer des villages. Les obus ont continué à tomber dans les déplacés, dans les camps des déplacés. Donc Madame Judith n'a pas su et n'a pas pu protéger les Congolais. C'est-à-dire que son bilan est négatif. Et je dis encore que négatif, c'est un euphémisme. Elle n'a tout simplement pas travaillé. En ce moment où je vous parle, Walikale est sous menace de M23. Ils sont allés de pourparlers, de réunion en réunion, de cesser les faits, de cesser les faits, de cesser les faits sans effet. Jusqu'au 10 juin, au mois de juin, M. le Marquis, responsable du département humanitaire des Nations Unies de la MONUSCO, nous avait dit que nous avions 460 morts à cause de cette guerre. Nous avions 800 000 déplacés internes en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu. C'est M. le Marquis, hein? Responsable du secteur humanitaire au niveau de la MONUSCO. Depuis que madame est arrivée, en 3 mois, de 800 000 déplacés, le bilan qui a été donné par la MONUSCO, le nombre, le chiffre qui a été donné par la MONUSCO, de 800 000 déplacés internes, nous sommes à plus d'1 200 000 déplacés internes. Donc, il y a eu augmentation de plus de 400 000 déplacés, toujours sous madame Judith Souminoua. Et ça, c'est dans la province de l'Ituri, nord et sud Kivu. Sans compter les Congolais qui meurent parce que l'État, le gouvernement de Mme Judith n'arrive pas à les nourrir dans des camps de déplacés. Il y a tellement de camps en Ituri et au nord Kivu. Sans compter les 300 déplacés internes du Bandundu. Et là, je chute au Bandundu. Ce que je peux qualifier d'une guerre oubliée. D'une population abandonnée à son triste sort. Évidemment, parce qu'il y a une guerre d'agression au nord Kivu, ce qui est normal qu'on donne la priorité au nord Kivu, mais n'oublions pas que Bandundu nous fait partie du Congo. Et à ce qui concerne, et ça c'est la sécurité, à ce qui concerne
reste,
le phénomène
reste,
de Kuluna,
oui, allez-y
madame,
rapidement.
Je ne sais pas, après cette émission, comment vous allez rentrer chez vous ce soir. Parce que partout il y a des Kuluna. Moi, je suis alimenté avant-hier. Tous, on a fait notre quartier. partout. Les policiers n'ont pas les moyens financiers. On nous parle de, je crois, 20 000 policiers, 16 000 policiers à Kinshasa avec un budget modique de 20 000 dollars le mois. Ils vont travailler avec quoi? Il n'y a pas de moyens. Je suis allé lors du retour du président Louis Martin Fayulu, vous avez vu 1 million de Congolais avec lui pour parler de la cohésion dans la rue. À Mokali, quartier Batumona, pour que j'y accède, les montants qui m'ont amené m'ont dit, Prince Epenge, on a payé les droits d'entrée dans ce quartier Batumona, Okuluna. J'en ai parlé à Kilimbalimba. Félix Tshisekedi ne gère même pas Kinshasa. Si les Kuluna font payer les taxes à Kinshasa, que dire de ce qui se passe à Ngandajika ou à Bonganda?
Merci, Prince Epenge. On vous
la situation
encore.
Globalement, je ne parle que ce secteur-là avant que j'arrive au secteur économique.
On n'a pas encore abordé le secteur économique.
Échec.
Merci.
Absolu.
On retient que c'est un échec pour vous, Prince Epenge. Professeur Michel Bissa, vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa et secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences sociales. Vous avez écouté ces Congolais qui se sont exprimés au micro de Radio Okapi par rapport aux 100 jours des Madame Judith du gouvernement souminois. Les avis sont partagés. Certains estiment qu'il est trop tôt de juger ce gouvernement. Il faut lui laisser le temps de travailler. D'autres estiment qu'il n'y a pas d'indicateurs, pas de signaux qui montrent que le gouvernement est en train de faire des efforts pour que la situation s'améliore dans le pays.
Merci beaucoup, madame. J'ai suivi les interventions de mes compatriotes qui sont intervenus sur la question, mais aussi de ceux qui sont intervenus en ligne. D'abord, la première chose, d'abord, est-ce qu'à 100 jours, on doit ou non évaluer? Madame, il faut noter qu'il n'y a pas un moment indiqué pour évaluer vers la fin. L'évaluation doit être ingoing, chemin faisant. Et on peut évaluer déjà à partir du premier jour de l'action d'un gouvernement. Cela voudrait dire quoi en réalité? Il existe l'évaluation même avant, parce que lorsque un programme d'action gouvernementale est mis en place ou n'importe quel projet, et la première ministre le sait très bien puisqu'elle a travaillé pendant longtemps dans des institutions où l'évaluation suivie sont opérationnelles et sont vraiment obligées. Donc, 100 jours, c'est vraiment le moment où on peut voir s'il y a eu décollage réussi ou si le décollage n'a pas réussi. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que le gouvernement qui est en place, c'est un gouvernement qui devrait, en principe, soutenir la vision ou les programmes promis. Je dis bien promis par le chef de l'État en temps de campagne. N'oubliez pas que ça a été, c'est supposé être un gouvernement de la consolidation des acquis. C'est avec cette phrase que la campagne électorale a été battue par la majorité au pouvoir. Donc, il fallait consolider les acquis du premier mandat. Et ces acquis du premier mandat, effectivement, je pense que si le plan positif, ce qu'on peut noter de positif pour ce gouvernement, en tout cas pour le cabinet de la première ministre, on l'a vu la volonté de vouloir maintenir l'équipe du premier ministre sortant Samalou Kondé, et de travailler avec eux dans un premier temps. Mais vous le savez, madame, qu'il n'y a pas longtemps, à l'occasion, je pense, du forum du génie scientifique congolais, la première ministre a été obligée d'assigner à domicile tout le personnel de la primature qui a travaillé avec les prédécesseurs, et c'était à l'issue d'une pratique malheureuse de quelqu'un qui aurait exigé des avances pour pouvoir intégrer un projet pourtant important sur notre police nationale dans le circuit financier. Alors, troisième élément, s'il faut évaluer ce gouvernement, en principe, on devrait partir des 6 piliers du programme d'action du gouvernement. Parce que le gouvernement a fixé ces 6 piliers, et quand on regarde ces 6 piliers, ils sont bien et bien alignés sur les ODD, les objectifs du millénaire pour le développement, mais également sur le plan stratégique national de la République à l'horizon 2030. À ce titre-là, On a du mal à avoir des éléments parce qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas eu une communication adéquate, une volonté de se mettre à la place des législateurs qui voudraient que les gestionnaires rendent compte à ceux qui l'ont envoyé au pouvoir. Mais dans les médias, nous avons vu quand même un certain nombre de ministères, pas nombreux malheureusement, qui ont pu faire un certain décollage. Je peux prendre l'exemple du ministère de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique. Nous l'avons vu avec un forum du génie scientifique congolais. Ils nous ont présenté les Congolais qui ont excellé et ils ont mis en place des structures qui peuvent accompagner cela. Bon, nous avons vu du côté de la justice, avec le ministre Mutamba, au moins une volonté de dénoncer. J'ai du mal à voir de manière pratique et palpable les réalisations de ce ministère. Mais au moins nous avons vu dans les médias qu'il parlait, même s'il a encore la communication, a semblé créer une zizanie entre l'option officielle du gouvernement et l'option du ministère de la Justice, au point que je pense que la première ministre a été obligée dans une réunion du Conseil des ministres à faire le distinguo entre le populisme et la communication gouvernementale. Nous avons également vu au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement Durable un certain nombre d'actions, notamment dans la voie vers la confection de la politique forestière nationale. Mais c'est encore faible pour un gouvernement avec tous ces nombres de gens qui sont. J'ai suivi un compatriote parler du taux d'échange. Oui, le gouvernement s'est battu pour qu'on n'atteigne pas 100. Mais en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui dire que le taux d'échange a été stabilisé. C'est vrai qu'il y a eu des troïkas stratégiques qui a été ressuscité, un peu comme à l'époque de Matata Ponyo, qui se réunissent, qui se battent pour qu'on n'entre pas qu'on n'atteigne pas le taux de 30, mais en tout cas, nous sommes aujourd'hui à 28,5. Donc, il y a là aussi un problème.
Alors, là, vous abordez déjà les secteurs économiques et emploi. On va aller d'abord sur le plan sécuritaire, professeur Michel Bissa. Un mot, très rapidement, sur l'aspect sécuritaire. Est-ce qu'il y a des améliorations pour le retour ou la réunification du pays et même des stratégies mises en place pour mettre fin au phénomène Kuluna, par exemple à Kinshasa? On a les Mobondo dans l'ex-Bondoundou et dans la partie orientale. C'est des groupes armés qui pullulent, qui tuent la population tous les jours. Est-ce que 100 jours après, l'investiture du gouvernement souminois, y a-t-il des signaux, des indicateurs qui montrent qu'il y a des choses qui sont en train de se faire pour améliorer la situation sécuritaire du pays?
Madame, merci beaucoup. D'abord, par rapport à cette question sécuritaire, nous, à l'Observatoire de la gouvernance, nous y avons consacré à ce jour à peu près 4 tomes de publication. Et je peux dire, comme ça a été dit ici, que d'abord, la question sécuritaire, c'est pratiquement les 30 dernières années. C'est de 1994 jusqu'à ces jours. Et donc cette question-là, il faut l'aborder de manière holistique et de manière globale. Quand je parle de manière holistique et globale, c'est que d'abord, quelle est notre politique nationale de la défense et sécurité? Madame, ça n'existe pas, nous n'avons pas un document de politique publique à cette matière. Mais nous savons au moins que le ministère de la Défense, dans les mandats passés, avait proposé ce qu'on appelait la loi de programmation militaire. Jusqu'à aujourd'hui, madame, ça reste l'unique initiative bien réfléchie, parce qu'avec cette loi, il s'agissait de construire la puissance publique étatique. On ne peut pas voir cette puissance qu'au niveau de l'armée. Il faut voir la sécurité comme quelque chose de global, notamment nos services de sécurité. Et à ce jour, nous avons un grand déficit, nous l'avons démontré dans des publications, qu'il est absurde d'avoir une agence nationale de renseignement qui produit à la fois les renseignements et les contre-renseignements. Il faut aussi spécialiser. Alors, s'agissant du gouvernement Judith Suminwa, sur cette question-là, au moins je peux dire quelque chose. Si le plan positif, même si plus de 90%, c'est l'échec. Bah, ce qui est positif, je pense que ça ne vient pas du domaine de l'armée ou de la sécurité, mais c'est dans le domaine de la diplomatie. Parce que, au moins, nous constatons que depuis quelques temps, il y a eu des pourparlers, une option réaliste, qui semble avoir obtenu le respect à quelques pourcentages acceptables de ce qu'on peut appeler cesser le feu. Au moins, on a l'impression que les forces qui attaquent sont dans leurs limites et les forces qui attaquent. Au moins, pour ce qui concerne la guerre conventionnelle. Même si, à Ituri, dans les forêts de Ringeti, les ADF continuent de tuer comme ils font.
Merci.
S'agissant de Mobondo, à l'ouest.
Allez-y, madame, très rapidement, la question... professeur, s'il vous plaît. Essayez
d'être la question de Mobondo est inséparable de la pression foncière dans la ville de Kinshasa. Des migrations qui viennent du Kasai, de Kwilu, Kwango, vers le Maïndombe et vers Kinshasa. Et donc, il y a des travaux. On ne sait pas tout dire ici tout de suite parce que l'État fait défaut. Mais je pense que l'approche abordée pour traiter la question est mauvaise. Les acteurs sélectionnés pour gouverner la question ne sont pas des acteurs qu'il fallait.
Merci professeur Michel Bissa. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Okapi. Ornicar Banza depuis Likasi dans la province du Katanga estime que 100 jours après, c'est dû sur place qu'on est en train de faire. Voilà, je vais retrouver vos réactions. Un petit souci avec ma connexion. Ok. William MGG dans la province de l'Ituri. Nous on voit déjà un changement, il estime qu'en Ituri, on voit déjà un petit changement, 100 jours après l'investiture du gouvernement souminois. Bidoya Badi Pengé Rémi, l'on s'attendait dès le début de ce gouvernement à des bonnes choses, fort malheureusement, c'est le contraire. Vous êtes très très nombreux à nous écrire. Badila Kissina Hilaire, aucun espoir d'un certain changement depuis que la première ministre a pris le bâton de commandement. On va ouvrir aussi le standard en même temps pour reprendre ces auditeurs qui nous appellent. On va se rendre dans la province de Lualaba, à Kolwezi précisément, pour écouter cet auditeur. Presse et Pengue, je vais vous voir regarder sur votre ventre, ne vous inquiétez pas, vous allez vous exprimer. On va prendre cet auditeur de Kolwezi.
Patrick Mbouli Kasama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Comme ses élus l'ont affirmé, jusque-là il n'y a rien de concret depuis l'avènement de l'actuel gouvernement. Et je crains que le programme très ambitieux présenté devant le Parlement soit juste des chiffres et tout un tas de théories comme les autres gouvernements précédents dont les actions ne corroboraient pas avec le programme présenté devant le Parlement. Ou encore la problématique de la guerre qui secoue la partie orientale du pays, qui accentue la misère et la crise qui s'observe actuellement. Bien que l'on ne peut pas juger un gouvernement juste 100 jours après son investiture, mais il n'y a pas de signaux clairs d'un avenir meilleur pour le peuple congolais venant des actions de ce gouvernement.
Eliezer Tambwe, que pensez-vous de cette réaction?
Bon, merci beaucoup, madame. Je pense qu'avant de répondre à la réaction de votre auditeur de tout à l'heure, je voulais quand même essayer de replacer certaines choses.
Allez-y.
Que je venais d'entendre. D'abord, je salue mon professeur, parce que le prof Bissa, c'est en même temps mon professeur que je connais. Et voilà. Je reviens sur ce que mon ami et frère, Prince Epengue, venait de dire. De manière brute, il dit, c'est un échec. Donc, vous sentez qu'il rejette tout en bloc. C'est ça aussi l'opposition en République démocratique du Congo, où on a une difficulté de reconnaître, tant soit peu, les efforts des autres. Donc, quand on est radical, quand on rejette tout, ça, on se dit qu'on est opposant. Mais j'estime, à mon humble avis, que je n'ai pas peur d'être remonté le bretelle. Il connaît mon indépendance. Mais là, il parle de la MONUSCO, du rapport de la MONUSCO. La MONUSCO n'est pas en République démocratique du Congo pour compter le nombre de morts. On les appelle les soldats de la paix. Ils étaient venus, c'est pour contribuer à cette paix-là. Mais si aujourd'hui la MONUSCO s'est transformée à une agence de comptage des morts...
Il a parlé des déplacés, pas des morts, des déplacés dans les camps.
Ça,
ça fait partie, Kelly, ça fait partie, je sais que c'est sensible comme nous sommes sur la radio Capi.
Rien à voir avec Radio Capi, mais je précise juste qu'il a parlé de déplacer et non des morts.
Bien sûr. Je voulais dire que la responsabilité à ce niveau-là est aussi partagée parce que on a fait venir, comme on manquait la paix, on a fait venir les soldats de la paix pour avoir la paix. Mais les soldats de la paix se mettent à nous compter le nombre de déplacés, le nombre de morts. Quand même, c'est vraiment une difficulté. Mais je pense, à mon humble avis, que la guerre d'agression que la Moussa, auquel le prince Pengue fait partie, a toujours reconnu cette agression-là. Là où nous parlons d'une même langage, d'un même langage plutôt, parce que le Rwanda n'est pas fort sans l'appui, sans l'utilisation de quelques compatriotes qui ne comprennent pas l'essence de quelques Congolais. Alors, ils profitent de notre manque du sens patriotique plutôt, pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Alors, en ce qui concerne ce que mon professeur venait de dire, la consolidation des acquis, mais moi je pensais que les profs pouvaient aller plus loin que ça, parce que consolider les acquis ne se limite pas qu'au niveau de ce qu'il a énuméré, il y a aussi les acquis démocratiques que nous devons consolider. Comme vous savez, à l'approche de chaque élection, il y a toujours tentative de prise par la force. C'est-à-dire, on peut revenir à la case de départ par les coups d'État, par les pratiques non démocratiques. Ça fait partie des acquis. Alors, il est libre de choisir son angle de traitement, d'aborder cette question-là, mais il est toujours important de reconnaître quelque chose. Mais là, j'ai senti quand même que ça m'a un peu dérangé. Mais il est toujours difficile de débattre avec son maître en même temps. Mais c'est quand le prof affirme qu'il n'y a jamais eu de politique. Donc, un régime absolu qui n'a jamais eu de politique en matière de la sécurité. Mais mon professeur, c'est un politologue. L'aspect sécuritaire est lié à la politique publique de chaque État, à ce que j'estime. Je sais que c'est la politique générale qui définit. Bien sûr, on peut peut-être chercher à nous comparer. C'est là que j'ai dit que nous sommes en train de prendre les choses de dehors que nous plaçons. Parce que si nous les plaçons dans ce sens-là, je peux parler de la Suisse qui fait des élections à chaque instant. Je prends l'année passée, l'année 2023. Je crois que la Suisse a organisé, si c'est une trentaine d'élections. Ça, c'est leur habitude. Mais en Afrique, au Congo, dans notre pays, la politique générale définit en même temps la politique sécuritaire. C'est là que nous l'évaluons. Si l'aspect sécuritaire n'était défini que par ceux qui sont dans l'armée, on n'évaluerait pas ça pour le compte du gouvernement. Alors, le prof a dit que l'évaluation doit se faire à tout moment. Bien sûr, je n'ai pas accepté, mais c'est quel type d'évaluation qu'on va faire à ce niveau-là? Dans la construction d'une émission, d'une maison par exemple, il y a toujours l'étape où on évalue, même dans un projet. Il y a toujours les étapes où on évalue. Mais ici, l'évaluation des 100 jours, nous voulons évaluer comme si nous voulons faire l'évaluation générale et que tout devrait changer automatiquement. Je comprends l'impatience des Congolais parce qu'ils attendent beaucoup. Quant à ce qui concerne l'auditeur de tout à l'heure, de Colwezi, dit qu'on n'a rien vu. Oui, nous, en tant que parlementaires, c'est pas pour rien que nous invitons à travers notre collègue Bindoulé, que nous invitons la première ministre pour comprendre s'il y a des signaux nécessaires qu'elle a déjà posés qui démontrent la bonne volonté de faire quelque chose pour la République. Parce qu'il ne faut pas que nous ayons toujours les gens qui occupent des postes de responsabilité pour bénéficier de la loi des statuts des anciens chefs d'État, des anciens chefs de corps par la suite, mais sans avoir fait quelque chose. On ne doit pas, la République ne doit pas continuer à faire honneur, même à ceux qui ne l'ont pas servi. Moi, je pense à mon humble avis que la démarche parlementaire que nos collègues ont initiée, c'est pour dire que nous, en tant que parlementaires, je ne suis pas porte-parole de la primature, nous, en tant que parlementaires, nous voulons aussi voir clair par rapport à ce qui a été fait selon le programme.
Merci Eliezer Tambe. Je vais rappeler très rapidement le cadre d'orientation stratégique du gouvernement qui est structuré en 6 piliers. Construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. Garantir l'accès aux services sociaux de base, renforcer les capacités du Congolais pour participer à la construction du pays, enfin gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la RDC face au changement climatique. Voilà un peu les 6 piliers dont nous avait parlé Madame Judith Suminwa, première ministre de la RDC lors de l'investiture de son gouvernement. On va prendre ce deuxième auditeur qui nous suit depuis Goma, au Nord Kivu. Plutôt Beni, on me dit.
Stoïque Ngurumbura, depuis la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Il est méchant de juger négatif les bilans du gouvernement après 3 mois d'installation. Certains ministres ont essayé de faire bouger les lignes, notamment celui de la finance, la justice et quelque peu celui du commerce extérieur. Cependant, bien qu'il soit difficile de produire en 3 mois, le gouvernement montrerait déjà des signaux dans quelques secteurs, notamment la défense. Ce sont les mêmes troupes qui demeurent au front. La logistique de l'armée reste la même, la rémunération des militaires reste aussi statique. Quant à l'agriculture, secteur clé du développement, en quel programme de relance si ce ne sont que des slogans? Désormais, que chaque ministère commence à exécuter un projet durable qui sera la marque de ce gouvernement plus tard.
Alors, l'auditeur revient un peu sur l'aspect sécuritaire. On va parler de l'aspect économique et social, hein, Prince Epengue, très rapidement pour gagner le temps. Le dollar aujourd'hui se change à 2850, voire 2900. Sur les marchés, on constate la hausse des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Vous passez juste un mot très rapidement par rapport à l'aspect socio-économique sur le bilan du gouvernement souminois.
Merci madame. Parce qu'il s'agit du bilan, j'insiste, je persiste et je signe. On peut évaluer un projet même s'il a encore aussi les papiers. Le professeur l'a rappelé à juste titre. Vous venez de le dire, que le dollar vient de gagner une unité et demie sous Mme Soumino. Au moment où elle est installée, c'était 27,500. Un dollar valait 2750. 3 mois après son installation, un dollar vaut 2850, voire même 2900. Donc, elle n'a pas su et pu maîtriser les taux du dollar américain, les francs congolais continuent à dévisser face au dollar. Avec ce coloreur de dégâts, la cherté de la vie, madame. Envoyez votre femme au marché aujourd'hui et fait peur. Parce que chaque jour, nous devons ajouter 10 000 francs. Hier, j'ai donné 30 000. Demain, vendredi, je vais donner 40 000. Tout est, je ne vais pas qualifier ça de mesures prises par les ministres de l'économie et les ministres du commerce. Ce sont des mesurettes. Il n'y a pas de politique publique en matière d'économie qui soit bien structurée. Vous avez vu les décisions ou les mesurettes à l'emporte-pièce de Julien Paluku. Oh, on n'importe pas de la farine de la Zambie. On n'importe pas de boissons sucrées de la Zambie. À 3 jours, la Zambie a mis la RDC à genoux. Le ministre a pris un Antonov pour se rendre à Lubumbashi en urgence pour supplier la Zambie de ne pas se fâcher. Et on a annulé toutes les mesurettes de M. Paluku. Gestion, essaye, erreur. On essaie d'abord. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, Mais nous sommes au 21e siècle. Des grèves en ce moment sont partout. Vous avez vu le vendredi 13 septembre 2024, c'était la semaine passée, les médecins ont fait un sit-in à la porte de M. Félix Tshilombo, à la cité de l'Oya, pour lui dire, vous aviez promis avec les gouvernements d'aligner 800 médecins à la prime de risque chaque trimestre en 2024. Nous sommes au mois de septembre, l'année s'achève, aucun médecin n'a été aligné à la prime de risque. Les médecins sont en grève. Malheureusement, la police politique de M. Félix Tshisekedi a tabassé, non, c'est la garde républicaine, c'est pas la police, la garde républicaine qui a tabassé copieusement.
Vous étiez là?
Non, mais les images sont là. Je vous cite les noms, et si vous voulez les noms des médecins blessés, il y a le médecin de Kalembelembe qui a eu deux côtes cassées. J'ai dit Kalembelembe. Peut-être Kalembelembe ici, le centre Kalembelembe ici, à Barombo. Deux côtes cassées, les vidéos sont là, les images sont là, j'ai des preuves ici. Vous avez vu les 16...
Allez-y un peu rapidement.
Je vais terminer, madame. On fait l'évaluation, l'évaluation se fait toujours calmement et sûrement. Le 16 septembre 2024...
Mais ne répétez pas les mêmes choses.
Non, je ne répète pas.
Allez-y.
Là, je parle des médecins, maintenant je vous parle des candidats magistrats qui ont fait une marche à la gare centrale. Lundi le 16 septembre 2024, pour réclamer les nominations. 2500 candidats magistrats. Le même gouvernement de M. Félix Tshisekedi a promis qu'ils seront nommés cette année 2024. L'année s'achève, les 2500 candidats magistrats ne sont toujours pas nommés et ils n'ont rien. Et là, la police est arrivée à la gare lundi le 16 septembre et ont tabassé copieusement encore une fois les candidats magistrats. Je vais parler des inspecteurs de travail également qui tirent les diables par la queue. Donc, des impairements partout.
Madame, dans tous les secteurs, tout est négatif pour vous.
Mais moi, madame, moi je vous donne un cas précis, je vous donne un exemple, je vous donne même la date. Alors que tous ceux qui sont intervenus n'ont pas donné de date. Je vous donne une précision. Je vais être chirurgical pour vous montrer que ce que je dis est vrai. Alors, madame a promis de créer par an 1,5 million d'emplois. Ce qui fait, dans ces 5 ans, 6,5 millions d'emplois. Donc, il a dit chaque année, il va créer 1 500 000 emplois. Maintenant, mon frère honorable Lézier, quand il prendra la parole, qu'il nous dise, en 3 mois, combien d'emplois ont été créés sur les 1 500 000 et promis. Et je parie aucun, à part que les militants de l'IDPS et les militants de l'Union Sacrée, qu'on a mis, qu'on paie à la main, à Maboko Bank, comme on dit, des emplois n'ont pas été créés.
Merci.
On a promis de soutenir, de faciliter l'accès des jeunes au l'accès au crédit, hein, aux jeunes entrepreneurs. Moi, j'en connais des jeunes entrepreneurs qui vont dans des banques et comme on n'a pas de banques de crédit, on n'a que des banques de dépôt. À peine qu'on ait vu les dossiers, on vous les jette. Non, on ne vous finance pas. Combien de jeunes ont été financés? Rien du tout. Donc ici, et je chute par là, que nous... ne croyons pas à ce que ce gouvernement puisse changer quoi que ce soit. Si le fin des droits humains, à une seconde, madame, vous avez vu en termes des droits de l'homme et des droits des humains, comment le régime Tshisekedi vient de tuer plus de 500 Congolais à Makala? Même en prison, les gens ne sont pas en sécurité. Plus de 500 Congolais viennent d'être tués à Makala, sous madame Esiminoa. Cette ficouille a été enlevé sous madame Esiminoa. Un militant de la Mouka de l'Essi de Jirès Semanzanza a été abattu froidement à 3h du matin devant les sièges décidés, qui est le siège de la Mouka. Et notre frère député national ici, j'ai oublié un peu son nom, Safou, on dit qu'on l'a arrêté, même que Moukebaï a été arrêté avant. Madame Esiminoa nous exige sa libération, Jamal Kabound aussi, mais je vous parle des
des gens qui ont violé les droits humains.
Merci, Prince. Sous
Madame
Soumine. Merci, donc, Prince Epengé.
C'est quand j'ai dit,
s'il vous plaît,
c'est un échec, c'est au pauvre comme au figuré.
Merci, on
Madame
vous a, suivi.
A échoué.
On vous a suivi, Prince Epengé. Professeur Michel Bissa, on va essayer d'être concis. Hein. Voilà, vous aviez déjà commencé à aborder l'aspect économique. Vous allez ramasser hein, le tout, l'aspect économique, le social, les respects des droits humains. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout cela, 100 jours après la mise en place ou l'investiture du gouvernement souminois?
Merci beaucoup, madame, mais que je puisse préciser la pensée, peut-être que je n'ai pas été bien compris par l'honorable Daniel, par l'honorable Ntamboué. Je disais que la RDC n'a pas et n'a jamais eu un document de politique nationale de la sécurité. Nous avons un document de stratégie nationale de défense. Actuellement, la RDC est en train de rédiger le document de politique nationale de gestion forestière. On venait de rédiger le document de politique nationale d'aménagement du territoire, le document de politique nationale de l'énergie. Mais pour la défense, il faut qu'il y ait des assises, les états généraux de la défense, que nous rédigeons un document qui doit prendre en compte et la défense et la sécurité de manière holistique.
Merci, professeur. Est-ce que vous pouvez répondre maintenant à ma question? Parce qu'on doit clôturer.
Ok, merci beaucoup. Madame, par rapport à l'aspect économique, ce que moi je peux dire aujourd'hui, et j'ai commencé à le dire, que le budget 2024 n'a réellement pas été exécuté. Nous attendons le débat au Parlement. Vous allez voir que plusieurs services de l'État, plusieurs entités, tout ce qui était dépensé, en tout cas, jusqu'aujourd'hui, en grande partie, ça n'a pas été appliqué, ça n'a pas été dépensé. Donc, celui qui a parlé de finances, je pense que c'est un des aspects qui n'a pas réellement marché. Au niveau du social, le social c'est aussi l'enseignement supérieur et universitaire. Vous savez que le chef de l'État avait ordonné à la nouvelle ministre de l'ESU de procéder à l'évaluation du système LMD dans notre pays. Mais je peux vous dire que cette évaluation a elle-même échoué. Donc il n'y a pas eu d'évaluation et quelqu'un m'a dit parce qu'il n'y a pas eu de moyens pour pouvoir procéder à cette évaluation. S'agissant de du programme de création de millionnaires ou des emplois, je l'ai déjà dit, il y a un point positif qui nous arrive du ministère de la Recherche nationale, de la Recherche scientifique et innovation technologique. On a vu là-bas qu'on a identifié des Congolais lambda qui ont eu des produits innovants. Il y a un forum du génie scientifique congolais. Nous espérons qu'ils auront des moyens et ils vont contribuer à créer des emplois pour pouvoir accompagner le programme de création de 1 500 000 emplois qui doivent être créés annuellement. Mais pour cette année, ça a été quand même un problème.
On va chuter avec l'aspect respect droits de l'homme.
Oui, la question des droits de l'homme, je pense qu'il nous faut un véritable programme de changement de mentalité des hommes en uniforme. De ce côté-là, je pense qu'il y a un grand décalage entre ce qui est déclaré par le gouvernement, la politique publique déclarée et les agissements sur le terrain. Nous avons de plus en plus des hommes en uniforme, en divagation et qui ont des gâchettes faciles dans la prison de Makala. Je pense que c'est vraiment condamnable à tout bout de champ. Nous en avons eu au Katanga, nous en avons eu dans le Kivu. Chaque jour qui passe, je pense que sur le point de droits de l'homme, le Congo a enregistré encore un grand recul parce que notamment on a rempli nos services de sécurité et de défense de personnes non encadrées moralement au rabais, et donc il nous faut un véritable programme de changement de mentalité des hommes en uniforme.
Merci, professeur Michel Bissa. On va considérer cela comme votre conclusion. Nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Monsieur Eliezer, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, madame.
Alors, vous allez devoir aussi conclure, hein, vous donner votre avis sur le plan économique, social et droits de l'homme.
Oui, madame, d'abord, je remercie la Radio Capi pour la qualité du débat, mais aussi les co-débatteurs. Je remercie mon professeur Bissa et ainsi que mon frère Prince Epengé pour cette complémentarité. que j'ai senti dans notre débat. Mais en ce qui concerne l'aspect économique, madame, il est important de savoir que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Parce que déjà nous avons un problème, parce qu'au Congo nous avons une économie pratiquement qui est entre les mains de l'étranger qui peut s'en servir de la manière dont tu le veux personnellement. Et Prince Peng venait de le dire, on n'a même pas de banque d'épargne en nous-mêmes. Nous n'avons qu'une seule banque de surveillance ou de contrôle qui du reste ne nous aide pas, parce qu'il y a eu beaucoup de cas, tels les cas de la BIAC et autres, où les épargnants sont victimes de cette barbarie financière. Et en ce qui concerne les droits de l'homme, oui, les profs a raison complètement, mais nous ne devons pas voir l'aspect droit de l'homme que par rapport aux hommes en uniforme. L'aspect droit de l'homme est multiple, c'est vraiment une question au centre de beaucoup d'interventions. Parce que si on doit les voir que sur le plan des hommes en uniforme, les États-Unis ne parleraient pas des droits de l'homme, parce que aux États-Unis, on tue les gens parce que seulement tu as bougé la main pendant que les policiers sont en train de s'approcher de votre voiture. Donc, si on réduit seulement aux hommes en uniforme, donc les droits de l'homme sera difficile à être défini à travers le monde. Voilà, mais nous avons beaucoup de choses à faire et les droits de l'homme, c'est aussi cette liberté d'expression que nous constatons. Les droits de l'homme, c'est aussi cette liberté d'opinion que Prince Peng a aujourd'hui. Mais aussi l'aspect sécuritaire, j'ai oublié de le dire, quand j'interviens que Prince Peng a applaudi le gouvernement pour une fois à l'arrivée de son président Martin Fayou, où il a été bien sécurisé, ils ont été bien sécurisés. D'ailleurs, je l'ai trouvé sur la route en train de prendre sa bouteille de champagne. C'est aussi ça une reconnaissance si on est patriote et qu'on a besoin de la construction de notre pays.
Merci Eliezer Tambwe. Prince Peng, 30 secondes.
Non, juste à mon frère et ami honorable Eliezer, que je ne prends pas d'alcool. Donc, ça c'est faux. Et mais la situation est grave, madame. Vous savez que les travailleurs congolais, les indo-pakistanais, les libanais, etc., sont aussi en grève. Et pourquoi? Parce que l'État congolais n'arrive pas à les protéger. Et les travailleurs des indiens sont exploités. Et c'est presque une forme de colonisation. On paye les gens autour de 1 dollar 1700 francs. Et vous êtes travailleur d'un indien, vous êtes chauffeur. Tantôt, on vous envoie acheter les biberons pour les enfants des Libanais. Tantôt, vous leur faites de la bouillie. Tantôt, c'est vous qui lavez les habits. Ça aussi, c'est un problème sérieux. Et nous pensons que Madame Judith n'est pas à la hauteur. Voilà pourquoi il faut, nous, la Mouka, nous, ADD Congo, nous nous préparons avec Martin Fayulu à prendre le pouvoir dans ce pays, parce qu'on
merci
a l'intelligence et un véritable projet pour ce pays.
Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.